Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission La science n'attend pas, votre émission hebdomadaire qui commente l'actualité scientifique. Je m'attarderai sur deux ou trois sujets de la semaine que je voulais absolument vous présenter et je donnerai en fin d'émission un bref aperçu des autres faits marquants. On commence sans plus attendre avec notre premier sujet. Si vous avez l'habitude d'écouter un petit peu les informations à la radio ou de regarder la météo, il ne vous aura sûrement pas échappé que quelque chose d'absolument incroyable s'est produit il y a peu. L'Europe, pour la première fois depuis des décennies, a dû affronter un ouragan. Ophelia a frappé les côtes irlandaises le lundi 16 octobre, engendrant de lourds dégâts matériels et tuant 3 personnes. Les côtes bretonnes ont connu des vents à près de 100 km/h et des vagues de 8 mètres, mais aucun dégât n'est à déplorer. Ophelia est le plus récent ouragan d'une longue série qui a débuté par l'ouragan Harvey qui a touché les côtes texanes le 25 août. Le 5 septembre, les Antilles françaises et notamment l'île de Saint-Barthélemy sont touchées par l'ouragan Irma puis par les ouragans José et Maria. Mais pourquoi est-ce que l'ouragan Ophelia est-il si exceptionnel ? Eh bien, son origine est très étrange. Il serait apparu assez proche des Açores, alors que la majorité des ouragans de l'Atlantique naissent et se développent dans le golfe du Mexique ou à l'ouest des côtes africaines. Mais sa trajectoire est sans doute une des choses les plus alarmantes. Et pour comprendre pourquoi, il faut s'intéresser aux mécanismes de formation des ouragans. Un ouragan ne peut se former qu'au-dessus d'une mer à 26,5 degrés sur une profondeur de 60 mètres, car cela permet une évaporation intense de l'eau de mer. La vapeur d'eau au contact de l'eau de mer se réchauffe et devient plus légère que l'air ambiant. La masse d'air se met alors à monter. Comme la température de l'atmosphère descend quand on monte en altitude, vient un moment où l'eau se condense en petites gouttelettes d'eau, libérant sa chaleur. Ce surplus d'énergie permet à l'air de monter encore plus haut, aspirant l'air au contact de la mer. Plus l'air monte haut, plus il absorbe d'énergie, ce qui accélère le phénomène d'aspiration au niveau de la mer. Tout cela forme une colonne d'air ascendant qui ne doit pas être perturbée pour que le futur ouragan se développe. Mais au niveau de la mer, il manque de plus en plus d'air, et pour combler ce vide, l'air aux alentours se met en mouvement. C'est ce qui crée les vents violents des ouragans. Ajoutez à ça la rotation de la Terre, qui fait alors tourner la colonne d'air ascendant et les nuages qui se sont formés, et on obtient un bel ouragan déjà de catégorie 1 ou 2. Si vous avez bien tout suivi, vous aurez compris que l'ouragan ne peut suivre que des trajectoires qui survolent des zones où l'eau est plutôt chaude. Et plus elle l'est, plus la force de l'ouragan est grande, ce qui ne présage rien de bon. Cette année, déjà 10 ouragans ont été recensés, dont 6 de catégorie 3 ou plus sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui est une échelle qui quantifie la force des dépressions, allant de simples dépressions à ouragans de catégorie 5, ce qui fait de 2017 l'année des ouragans. Une grande partie des météorologues est formelle, c'est le signe du réchauffement climatique, et on voit que celui-ci ne touche pas seulement les régions tropicales et équatoriales, mais aussi les zones bien plus au nord. Ce qui ne laisse rien présager de bon. Mais pourquoi est-ce que les scientifiques n'arrivent pas à prédire l'apparition ou l'évolution des ouragans ? Eh bien, le développement des ouragans comporte une partie imprévisible tant les conditions atmosphériques ont influence sur eux. Mais une équipe de chercheurs a récemment trouvé une manière d'étudier cette composante aléatoire. Et pour ça, elle a utilisé des bulles de savon. Mais pourquoi est-ce qu'on utilise une bulle de savon pour modéliser un ouragan ? Eh bien parce qu'en fait, une bulle de savon, c'est assez semblable à la Terre. L'épaisseur du film de savon est très petite par rapport au diamètre de la bulle, un peu comme l'atmosphère pour la Terre. Il peut être alors intéressant d'étudier l'évolution d'ouragans miniatures à la surface de ces bulles de savon. C'est ce qui a été fait, et l'évolution de ces ouragans de savon est très proche de ce qui est observé sur Terre, ce qui permettrait, d'après les chercheurs, de pouvoir mieux étudier et comprendre ces phénomènes naturels destructeurs. Abordons à présent notre deuxième sujet. Les chercheurs français ont annoncé le 19 octobre avoir réussi l'exploit de créer le premier nanoneurone artificiel du monde. Sa taille varie de 10 à 500 nanomètres et il est inspiré du fonctionnement d'un neurone humain, sachant que le neurone humain, en fait, il sert juste, entre guillemets, à transmettre un potentiel électrique. Alors comment marche ce petit neurone artificiel ? Alors en fait, il est composé de métaux empilés pour créer ce qu'on appelle un oscillateur spintronique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un oscillateur spintronique ? Eh bien tout simplement, ce sont deux couches magnétiques qui sont séparées par une couche non magnétique. Quand on fait passer un courant dans ce petit oscillateur, cela crée un moment magnétique oscillant qui, couplé à une magnétorésistance, permet de générer une tension de l'ordre de la dizaine de millivolts qui est donc détectable. Alors une magnétorésistance, en fait, c'est juste l'analogue d'une résistance normale, mais pour le champ magnétique. Une résistance normale, ça permet de coupler le courant et la tension, et une magnétorésistance, ça permet juste de coupler le champ magnétique et la tension. Et comme le moment magnétique engendré est proportionnel au courant utilisé, et que le voltage est proportionnel au moment magnétique, on a donc une tension de sortie de notre petit oscillateur qui est proportionnelle au courant d'entrée. Actuellement, ce nanoneurone a une fiabilité absolument incroyable. Il a 99% de reconnaissance des chiffres 1 à 9 prononcés par des personnes absolument prises au hasard. Mais comment est-ce qu'un truc qui oscille avec un champ magnétique, eh ben, au final, ça nous permet de reconnaître des chiffres de 1 à 9? Eh bien, tout simplement, la première étape, c'est d'acquérir un signal audio, qui ensuite va être transformé par un micro en signal électrique, une tension, qui sera convertie en courant avec une résistance, par exemple. Ensuite, ce courant, il est envoyé dans le neurone artificiel, qui va générer une tension de sortie, qui va être analysée par ordinateur et comparée à une base de données qui a été déjà constituée. En vérité, il faut combiner le signal d'à peu près 400 neurones pour avoir un signal assez fiable et proche de ce qui est dans la base de données. Mais alors pourquoi est-ce que au final c'est assez révolutionnaire ? Eh bien tout simplement parce que la taille du nanoneurone est très intéressante. Quand on a quelque chose, un composé électrique qui fait de 10 à 500 nanomètres, eh bien on peut assez rapidement imaginer en fait de faire des chaînes de neurones et comme ça de reconstruire un cerveau artificiel, sachant que la même équipe de chercheurs a déjà inventé une synapse artificielle en avril de cette année. Son autre avantage, c'est sa très faible consommation énergétique, à peu près 1 microwatt pour chaque nanoneurone. On peut également l'utiliser à la température de la pièce, pas besoin de le refroidir, ce qui est le cas actuellement pour les nanoneurones artificiels. Sa durée de vie est très très longue, c'est un processus rapide et on peut le fabriquer à très grande échelle. C'est donc une technologie qui se présente actuellement comme le meilleur opposant à l'ordinateur quantique comme matériel de l'informatique du futur. Mais en attendant le développement de cette technologie, certains acteurs du développement de l'intelligence artificielle ne comptent pas abandonner la bataille. C'est le cas de DeepMind, la filiale de Google qui, après avoir défrayé la chronique en créant l'intelligence artificielle AlphaGo, qui a triomphé du champion du monde de Go Lee Sedol en mars 2016, puis du nouveau champion du monde Keijie en mai de cette année, améliore encore son système et a dévoilé le 17 octobre son dernier programme AlphaGo 0. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'approche même de la conception du programme a énormément évolué. AlphaGo utilisait une méthode d'apprentissage par renforcement et aussi une base de données de parties déjà jouées entre des humains. Et il possédait deux systèmes informatiques indépendants, un réseau de décisions qui permettait de prendre les décisions lors de la partie, et un réseau de valeurs qui prédisait le vainqueur de la partie en fonction des pions déjà en place. En quoi est-ce que AlphaGo 0 est différent ? Eh bien, au lieu d'avoir deux systèmes informatiques, maintenant il n'y en a plus qu'un. Les deux ont fusionné et on a donc un nouveau système informatique qui est plus rapide et plus puissant. Et surtout, il n'a plus de base de données. Il n'y a donc plus de comparaison avec des parties antérieures jouées entre humains. Les seules informations que l'on a données à la machine sont en fait les règles du jeu. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? On peut penser que ça va nuire aux performances de la machine. Eh bien, d'après le créateur, on aurait fait ça pour ne pas limiter la machine à l'horizon de la connaissance humaine. Bon, ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, les résultats sont là. En 3 jours d'apprentissage, AlphaGo 0 a déjà battu le programme vainqueur de Lee Sedol par 100 parties à 0. Et en 40 jours, il bat 90 parties à 10, la version qui a triomphé de Keijie et devient le meilleur joueur de Go mondial. Et plus surprenant, la machine arrive à inventer des techniques. Alors, en quoi cette technologie qui finalement n'est applicable qu'au jeu de Go est utile et utilisable ? Eh bien, d'après les créateurs, cette technique pourrait être transposable dans la vie réelle. Cela pourrait mener notamment à l'invention de techniques en science ou en aide médicale, etc. Évidemment, il y a encore des progrès à faire puisque le jeu de Go est un jeu avec des règles qui sont très claires et très peu d'imprévus. Il reste donc à transposer cette intelligence artificielle dans un domaine avec plus d'imprévus et des règles un petit peu plus floues. Alors maintenant que j'ai fini les topics les plus intéressants, entre guillemets, on va passer aux autres faits marquants de cette semaine qui méritent quand même qu'on les cite. Premièrement, on sait que dans la course pour trouver une alternative aux énergies fossiles, le dihydrogène se présente comme un candidat très sérieux. Air Liquide, qui a déjà installé plus d'une centaine de stations à hydrogène dans le monde, a installé le 16 octobre la première station de ce type à Dubaï. Alors comment est-ce que ça marche une voiture à hydrogène ? Eh bien, tout simplement, le dihydrogène est stocké dans un réservoir et il est consommé avec le dioxygène de l'air pour produire de la vapeur d'eau et du courant électrique qui alimente un moteur électrique. Mais du coup, pourquoi est-ce que c'est une technologie prometteuse ? Eh bien en fait, c'est très facile de faire le plein puisqu'il suffit de remplir le réservoir en dihydrogène. L'autonomie est accrue comparée à une voiture 100% électrique. On est à 650 km contre 400 km pour les voitures actuelles. Mais il y a quand même quelques problèmes, évidemment. Le premier étant lié au stockage du dihydrogène, puisque augmenter la taille du réservoir est la seule possibilité pour augmenter l'autonomie de la voiture, mais également que la batterie a une faible durée de vie, 150 000 km maximale, et que les voitures restent chères pour l'instant, comptées à partir de 80 000 euros pour l'entrée de gamme. C'est une technologie qui est déjà assez utilisée. À Paris, par exemple, il y a déjà une flotte de taxis qui s'appelle les taxis Hype, qui sont des taxis à dihydrogène. Et également la Norvège qui est très investie dans la voiture à hydrogène avec le projet de construire notamment une autoroute à dihydrogène sur lesquelles ne rouleraient que des voitures qui marcheraient au dihydrogène. Deuxièmement, on va rendre nos amis matheux un petit peu heureux. On a réussi à démontrer qu'il n'existe que 15 pavages pentagonaux du plan. Alors ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais en fait ça l'est pas du tout. Qu'est-ce que c'est un pavage? Eh bien c'est quand vous prenez une unique forme, que vous la répétez à l'infini et que vous arrivez à recouvrir totalement un plan. Alors ces formes, elles doivent avoir une seule petite particularité, elles doivent être convexes. Ça veut dire que si vous prenez deux points dans la forme, le segment qui les relie doit être intégralement dans la forme. Pour prendre une image, un cercle c'est convexe, mais si vous prenez une étoile, c'est pas une forme convexe. Alors c'est le mathématicien Michael Rao qui clôt le débat lancé par Karl Reinhardt en 1918. Et donc Michael Rao a d'abord démontré que tous les pentagones pouvaient se rassembler en 371 familles. Alors une famille c'est juste défini par des rapports assez spéciaux entre les angles au sommet sans condition sur les longueurs. Ensuite il a tout simplement demandé à un ordinateur de tester toutes ces familles pour savoir si elles pouvaient paver le plan. Et le résultat c'est qu'il n'y a que 15 familles qui le permettent. Là, on a un peu l'impression que c'est l'ordinateur qui a fait la démonstration et pas Michael Rao. Pour montrer que l'homme reste supérieur à la machine dans les mathématiques, il y a également le jeune mathématicien australien Terence Tao qui a réussi à démontrer la conjecture d'Erdos, d'après laquelle pour tout mélange de la somme plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, etc., il existe un pas tel que si l'on somme tous les chiffres espacés de ce pas, on obtient une somme qui tend en valeur absolue vers l'infini. Alors ça paraît un peu compliqué comme ça. On va prendre un exemple tout bête. Vous prenez plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, etc. Et ben là, le pas, il vaut 2. Si vous prenez un chiffre sur 2, la somme que vous obtenez, c'est plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, qui tend de manière assez évidente vers plus l'infini. Une preuve partielle avait déjà été donnée par une équipe anglaise assistée par ordinateur, mais la preuve était longue de 13 gigaoctets. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, c'est du coup une preuve qui est à peu près aussi longue que l'intégralité de Wikipédia. Alors Terence Tao n'a utilisé que 25 pages, comme quoi l'homme reste pour le moment supérieur à la machine en mathématiques. Dernière découverte assez intéressante de la semaine, une équipe de chercheurs français a découvert que l'autophagie était nécessaire pour diminuer le risque d'infarctus. Alors un infarctus c'est quoi? C'est tout simplement la formation d'un caillot dans une artère qui finit par boucher l'artère et empêche l'alimentation en sang d'une partie de l'organisme. C'est un phénomène très grave qui conduit souvent à la mort de l'individu s'il n'est pas pris en charge très rapidement. Les chercheurs français ont montré que si l'on désactivait le phénomène d'autocannibalisme des cellules qui tapissent les artères, ce phénomène qui s'appelle l'autophagie, eh bien ces cellules mourraient plus prématurément et causaient une inflammation, deux choses qui favorisent le dépôt de lipides dans l'artère. Aujourd'hui, le groupe de chercheurs cherche un activateur d'autophagie qui pourrait diminuer le risque d'infarctus et donc éviter de nombreuses morts par an, mais estime que cette technique ne devrait être fiable que dans une dizaine d'années environ. Pour finir, n'oublions pas qu'octobre est le mois rose, mois pendant lequel nous sommes tous sensibilisés au cancer du sein. Le cancer du sein représente environ 54 000 nouveaux cas par an, causant 12 000 décès par an en France. Mais les chances de survie n'ont jamais été aussi bonnes, 87% de survie à 5 ans, 78% à 10 ans. Les dépistages sont recommandés à partir de 50 ans, mais pas obligatoires, et jusqu'à 74 ans. Et l'on sait que plus le cancer est dépisté tôt, mieux il est soigné, et plus les risques qu'il n'y ait que peu ou pas de séquelles est grand. C'est ainsi que se termine cette première émission, j'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas à faire des recherches sur les sujets évoqués pour plus de précision. On se retrouve après les vacances pour un numéro hors-série spécial prix Nobel pour comprendre pourquoi chaque découverte récompensée présente une avancée majeure dans leur domaine. Bonne soirée à tous et à la prochaine fois parce que la science n'attend pas.